Salut Tom, Sébastien.
Salut Tom Cattel.
Europe Espéranto en votre compagnie ce mois-ci. Plusieurs rendez-vous au programme. Nous allons parler de la Hongrie dans la présentation d'un pays européen. Ce sera à la fin de cette émission. Auparavant, nous aurons entendu votre invité qui est aujourd'hui Georges Kersaudy. Alors, je ne sais pas trop bien comment le présenter. Georges Kersaudy, c'est un traducteur. Il a travaillé pour les affaires étrangères, pour l'ONU, pour l'Union européenne. Il manie un certain nombre de langues. On dévoilera toutes ces facettes avec vous dans quelques instants. Et puis, eh bien, nous parlerons musique aussi. Et d'ailleurs, c'est le cas. Qu'est-ce que nous allons entendre ?
Alors, on commence tout de suite par de la musique. On commence par de la musique en espéranto, comme d'habitude. Et alors là, c'est un groupe danois, enfin danois et bosniaque, qui s'appelle Esperanto Desperado. Et le titre de la chanson, c'est La Anaso kaj la Simio, qui signifie le canard et le singe. Alors donc, c'était le groupe Esperanto Desperado, donc le groupe dano-polonais-bosniaque. Donc aujourd'hui, notre invité est Georges Kersaudy. Alors, comme on l'a annoncé tout à l'heure, je commence par une première question toute simple, mais combien de langues parles-tu environ ?
Ah, je ne l'ai jamais su moi-même. Dans ma vie, j'en ai parlé plus d'une cinquantaine certainement, mais il m'est arrivé de parler des langues que je ne connaissais pas bien, et il m'est arrivé, comme je le disais tout à l'heure d'ailleurs, de ne pas parler des langues que je connaissais très bien. Tout dépend aussi de l'occasion qu'on a. Il est vrai que dans ma carrière, j'ai eu 30 domiciles sur 4 continents, et qu'entre ces domiciles, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai eu de nombreuses missions. Alors, ce que j'ai eu l'occasion de faire, c'est de faire des traductions à titre officiel à partir d'une bonne cinquantaine de langues. Et il s'agissait généralement de textes de traités internationaux, de textes de jugement, de tribunaux, de choses de ce genre.
Alors donc, tu as entre autres travaillé donc à l'ONU, plus tard à la Communauté européenne. Alors, quelle était ta fonction justement à la Communauté européenne ?
Eh bien, j'ai commencé par les affaires étrangères. Alors, j'ai quitté j'ai été dans divers pays pour le compte des affaires étrangères. Ensuite, je suis passé à l'ONU. Et de l'ONU, après 14 ans, je suis passé à l'Union européenne. Et entre deux, d'ailleurs, je suis retourné aux affaires étrangères pour faire de la coopération.
Et tu étais traducteur uniquement ou interprète ?
Non, j'étais traducteur, mais malheureusement, comme les gens ne font jamais la différence entre le traducteur et l'interprète, très souvent, on m'a utilisé comme interprète à mon corps défendant. J'expliquais toujours qu'un traducteur n'est pas un interprète.
C'est deux choses bien différentes.
Oui, absolument. L'interprète travaille par écrit.
Le traducteur travaille
par écrit. L'interprète travaille... Il a des écouteurs. Il écoute et il parle quoi, en même temps. J'ai essayé de faire comprendre ça aux utilisateurs, mais plus l'utilisateur est élevé en grade, j'ai souvent eu affaire à des chefs d'État, à des ministres, l'interlocuteur est élevé en grade, moins il condescend à comprendre ça. Alors c'est très curieux, je disais quelquefois, voyez-vous, un traducteur, ça travaille comme une machine à écrire, un interprète, ça travaille comme un phonographe. Alors si vous voulez taper une lettre sur un phonographe ou jouer un disque sur une machine à écrire, le résultat ne sera pas fameux.
Oui,
vous dites, oui, ben c'est bien, en attendant, aller en cabine, on a besoin de vous. Et voilà, et ça se passait très souvent comme ça. Remarquez que c'était très drôle de toute façon, ça m'a permis de rencontrer des quantités des gens, des chefs d'État, des dictateurs, des gens très curieux dont j'ai gardé un souvenir très, très, je dirais pas émerveillé, mais enfin c'était toujours agréable et souvent très drôle, quelquefois même comique.
Alors justement sur ta partie du travail à la Communauté européenne, vu que notre émission c'est Europe et Espéranto, qu'est-ce que représente pour toi tout d'abord l'Europe et plus particulièrement l'Union européenne ?
Eh bien, l'Union européenne, l'Europe actuelle, l'Union européenne actuellement, c'est une union de 15 pays qui a 11 langues officielles, qui devraient être considérées normalement comme égales, comme d'égale importance. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, on peut y revenir tout à l'heure si vous voulez, mais ça va être un ensemble de 25 pays qui vont avoir 20 langues officielles. La situation se complique de plus en plus. Une réunion dans laquelle on utilise 20 langues officielles, c'est une réunion dans laquelle on a recours à 380 interprètes. Ça fait beaucoup.
Ça veut dire que vous craignez aussi une certaine inégalité, comme un pays, je pense à la Slovénie, avec 2 millions d'habitants, quel poids elle peut avoir d'un point de vue linguistique ?
Quel pays ?
La Slovénie,
oui,
par exemple.
Oui, eh bien oui. Mais vous savez, il y a des pays qui ont encore, dont la langue est encore beaucoup moins importante. Le Slovène, 2 millions d'habitants, c'est déjà pas mal. Mais vous avez l'île de Malte, la République maltaise, eh bien... À Malte, ça fait quand même 300 000 personnes.
Hein. C'est peu. Hein.
C'est pas beaucoup. Mais le maltais est tout de même une très belle langue. C'est une langue européenne qui n'est pas d'origine indo-européenne. C'est une langue d'origine sémitique qui est très, très belle. Mais elle a le droit d'être utilisée au même titre que les autres. Hein. Et alors, vous avez des quantités de langues qui ne sont même pas représentées, des langues qui sont pas... Une langue comme le catalan est parlée par 10 millions de personnes en Europe, eh bien, elle ne figure pas dans les langues européennes, dans les langues officielles de l'Europe.
Et est-ce que, justement, dans les instances officielles où tu as travaillé, à la communauté européenne, par exemple, est-ce que, justement, cette inégalité est visible, rien qu'entre les traducteurs ou les interprètes?
Non, pas du tout. Ce sont deux métiers différents.
Mais même ce que je veux dire, c'est au sein des traductions qui sont proposées aux parlementaires ou aux...
Ah, on parle des langues ou des interprètes et
des langues, des langues.
Ah, on parle des langues, oui. Alors évidemment, très souvent, dans les réunions de travail, comme on ne peut pas utiliser les 11 langues officielles, ce qui devrait pouvoir se faire, eh bien, on décide de n'utiliser que 3 langues de travail qui sont généralement, on se met généralement d'accord sur l'anglais, l'allemand et le français. Hein. Mais dans la pratique, lorsqu'on utilise ce système des 3 langues de travail, tout le monde finit par parler anglais. Et ce n'est pas de l'anglais merveilleux. Hein. C'est un anglais, très souvent, les gens s'expriment en anglais d'une façon tout à fait rudimentaire, ou très particulière, ça fait sourire les anglophones.
Je crois que j'ai lu, oui, dans ton livre, tu appelles ça le conlang continental.
Oui, c'est le conglish.
Oui, conglish.
C'est le conglish, continental English. C'est l'anglais des continentaux qui n'est pas toujours merveilleux. Je me souviens on peut en citer des milliers d'exemples d'horreurs qui se sont produites de cette façon. Un Français qui monte à la tribune et qui commence par dire « I think ». Au lieu de dire « I think », il dit « I think ». Et oui. Alors, à ce moment-là, l'interprète allemand, qui veut être très précis, il dit « Ich denke ». Il ne dit pas « Ich denke », il dit « Ich denke », »,« Je coule
». Au lieu de « Je pense ».
De « Je pense hein. ». Alors, tout le monde se moque un peu, très souvent des francophones ou des italophones ou des hispanophones qui utilisent l'anglais. Hein. Et ça ne fera que croître et embellir. De toute façon, on en arrive maintenant au point où, dans les avis de vacances de poste, on inscrit une condition sine qua non pour obtenir le poste pour les candidats. On met langue maternelle anglaise, English mother tongue. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas de langue maternelle anglaise, le poste n'est pas pour vous. Vous appelez ça l'égalité, le poste est réservé à un anglophone.
C'est de la discrimination.
Ça veut dire que le poste est réservé à un anglais, tout simplement, à un britannique.
Alors, on a pu voir que tu parles ou tu as appris plusieurs langues, et il y en a une particulière. Comment as-tu appris, justement, l'espéranto?
J'ai appris l'espéranto.
Quand et comment?
Très jeune, parce que dans ma ville natale, qui est Le Havre, nous avons eu, quand j'avais... À l'époque, j'avais 15 ans, nous avons eu la visite d'un Suédois qui donnait des cours d'espéranto. Il s'appelait Arthur Persson et c'était un homme remarquable. Il a fait tous ses cours en espéranto directement. Il n'a jamais utilisé, il connaissait un peu quelques mots de français, mais il ne s'en servait pas. Et il a donné, et en quelques semaines, tous ses élèves parlaient l'espéranto. C'était merveilleux. Moi, à l'époque, je lisais couramment déjà 7 ou 8 langues. Mais la découverte de l'espéranto, ça a élargi mon horizon d'une façon extraordinaire. À partir du moment où j'étais allé au cours avec mes sœurs, on s'est mis à parler espéranto entre nous. Et puis j'ai commencé à lire des quantités d'ouvrages en espéranto qui venaient du monde entier. Et ça m'a permis d'élargir mon horizon. À partir de là, c'était comme un tremplin vers la connaissance d'autres langues.
Donc, tu irais jusqu'à dire que c'est l'espéranto qui aurait suscité ta vocation?
Ah, certainement. Autrement, avant d'apprendre l'espéranto, eh bien, je lisais 7 ou 8 langues, mais je pensais ne pas avoir que ça me suffirait. Et puis, je n'avais pas de contact avec les autres langues. Et puis tout d'un coup, grâce à l'espéranto, j'ai eu des contacts avec toutes les langues du monde et j'ai fait mon choix. Et je me suis aperçu très vite qu'elles étaient toutes à ma disposition, qu'il ne fallait pas s'en priver, que ça ne coûtait rien, que c'était très agréable et en même temps que ça pouvait servir à des tas de choses.
On a l'impression, quand on vous entend, Georges Kersaudy, que d'apprendre des langues, finalement, ça coule de source, c'est facile, c'est vrai? C'est ce que vous pensez?
C'est vrai. Le malheur, c'est qu'on explique depuis des siècles, on explique aux gens qu'apprendre une langue, c'est quelque chose de très difficile, de très compliqué. Et on finit par créer un bloc psychologique. Les gens n'osent même pas apprendre une langue parce qu'on leur a tellement répété que c'était très difficile et très compliqué que ils n'essayent même pas. Hein. Et si, comme je dis toujours, s'ils ne se jettent pas à l'eau, ils ne sauront jamais nager. Hein. C'est triste à dire, mais cette attitude est particulièrement répandue dans notre pays. Et je constate que l'enseignement des langues dans les lycées, eh bien, ça pourrait être fait d'une toute autre façon. Mais l'enseignement tel qu'il est exercé, tel qu'il se pratique actuellement, enseigner une langue à raison de 2 ou 3 heures par semaine pendant 8 ou 10 ans, c'est une catastrophe. Généralement, et en plus, on impose une langue. 9 fois sur 10, on impose l'anglais. Alors qu'il vaudrait mieux ne pas prendre l'anglais, c'est une très belle langue, l'anglais, mais ne pas le prendre comme première langue, le prendre comme deuxième ou troisième langue. Mais surtout pas comme première langue. Ça va dégoûter les élèves. Il y a des complications de prononciation. L'écriture, il y a un divorce entre l'écriture et la prononciation. Et ça crée un nouveau blocage psychologique chez les malheureux à qui on essaye de faire ingurgiter cela à raison de 2 ou 3 heures par semaine. On peut apprendre une langue très rapidement, très bien, en l'espace de 3 mois. Et ensuite, il faut s'en servir. Si on ne s'en sert pas, on a perdu son temps. Mais si on enseigne aux élèves à raison de 2 ou 3 heures par jour pendant 3 mois, d'ailleurs, il ne faut pas leur enseigner. Il faut les aider. On n'enseigne pas une langue. Il faut les aider à l'apprendre. D'abord, il faut qu'ils aient envie de l'apprendre. C'est une question de curiosité. Et le professeur ne doit pas enseigner. Il doit aider l'élève à apprendre lui-même la langue. Il y a de très bonnes méthodes pour ça. Il y a les méthodes audiovisuelles. Il y a des quantités de méthodes. Nous avons même, je veux pas faire de la réclame parce que, je n'ai pas d'intérêt dans la maison à 6000, mais nous avons en France une méthode qui s'appelle la méthode à 6000 et qui est la meilleure du monde, la meilleure qu'on ait jamais trouvée. En aucun pays, on a trouvé une méthode aussi remarquable pour l'enseignement des langues, qui a des qualités pratiques aussi évidentes. Eh bien, malheureusement, on ne s'en sert pas.
Et sur l'enseignement des langues aux enfants, je me rappelle que dans ton livre, à un moment, tu préconises, ou du moins tu penses que si on enseignait tout d'abord l'espéranto, ça pourrait être justement une très bonne introduction aux autres langues.
Ah oui, comme je le disais, c'est un tremplin vers les autres langues. Très vite, tous les élèves qui apprennent l'espéranto, très vite, ils découvrent que la traduction d'un texte étranger en espéranto, ça vaut une explication de texte. Pourquoi ? Parce que l'espéranto permet de coller exactement au texte original. Et alors, une traduction, ça aide beaucoup. Il faut le meilleur moyen d'apprendre à lire dans une langue, et on peut le faire très, très, comme je l'ai dit, en l'espace de 3 mois, on peut apprendre à lire couramment. Il suffit de regarder le texte original et avec la traduction en regard. Alors, on lit le texte original et on voit. Mais si on a la traduction en espéranto, alors c'est un mot. On peut faire une très bonne traduction qui soit en même temps un mot à mot. Et ça, c'est formidable. Ça explique tout de suite. Pas besoin d'explication. L'étudiant voit tout de suite ce que veut dire le texte original et comment ça se décompose. Il suit la même syntaxe, il suit même la même formation des mots. On peut former des mots en espéranto exactement de la même manière que les mots sont formés dans la langue originale.
Et en plus, sur ce que tu disais tout à l'heure, comme le choix actuel de l'anglais comme première langue, l'espéranto, lui, a une prononciation entièrement phonétique.
Entièrement phonétique, entièrement simple. Et aussi, ça permet de briser le bloc psychologique parce que l'élève s'aperçoit qu'en l'espace de quelques semaines, il parle couramment. Et ça, il ne peut le faire avec aucune autre langue vivante.
Et justement, est-ce que dans ta carrière, tu as eu l'occasion de te servir de l'espéranto à titre peut-être professionnel ou avec
des collègues ? Ça m'est arrivé dans des conférences. Il m'est arrivé de rencontrer des traducteurs ou des interprètes qui avaient une petite étoile verte au veston. C'est reconnu, on se mettait tout de suite à parler. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que lorsque je suis entré aux Nations Unies, il y a très longtemps de ça, il y a plus, ça va faire combien ça va faire ? Ah, ça fera bientôt 50 ans. Eh bien, lorsque je suis entré aux Nations Unies, on avait réuni les rares traducteurs qui connaissaient toutes les langues officielles, les cinq langues officielles qui étaient l'anglais, le français, l'espagnol, le russe et le chinois. Alors on était que trois dans ce cas-là. Et quand on s'est réunis, on a découvert qu'on était trois espérantistes. Et on a dit, c'est pas un hasard.
Parce qu'on était seulement
trois personnes qui avaient eu la curiosité de s'intéresser à toutes ces langues-là.
Et comment tu verrais finalement la place de l'espéranto peut-être pour par rapport à l'Union européenne ? Quelle pourrait être son utilité ? Quelle est son utilité actuelle ?
Ça peut être la langue pivot, ça peut être la langue d'intercompréhension. J'ai toujours trouvé ridicule qu'un Italien et un Espagnol correspondent en anglais ou communiquent en anglais. C'est grotesque, leurs deux langues se ressemblent beaucoup. Un Français qui se sert de l'anglais pour parler à un Italien, c'est pas un peu triste
hein ? On peut presque se comprendre.
Oui, alors le mieux, c'est ou d'apprendre la langue de l'autre, ou d'apprendre l'espéranto. Et puis, quand on apprend l'espéranto, tôt ou tard, on aura envie d'apprendre la langue des autres. Quand on parle avec quelqu'un en espéranto, avec quelqu'un qui n'a pas la même langue, eh bien, on finit toujours par avoir envie de parler sa langue.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur que l'espéranto, ça coupe l'envie d'apprendre les langues, ou il y a même des traducteurs, justement, de l'Union européenne qui ont peur que l'espéranto, ça va disparaître le métier, alors que l'espéranto, au contraire, c'est ça qui...
Absolument, mais la raison pour laquelle l'espéranto n'est pas aujourd'hui la langue auxiliaire universelle, c'est simplement parce qu'au début, dans beaucoup de pays, et surtout en France, je dois le dire, on pensait naïvement que lorsque l'espéranto se développerait, les gens ne parleraient plus leur langue maternelle. Alors ça, c'était... Aujourd'hui, on en arrive au point que le français est en train de glisser vers l'anglais. L'importance du français s'amenuise tous les jours en faveur de l'anglais. Finalement, le français disparaît à cause de l'anglais. Le français n'aurait pas disparu à cause de l'espéranto. Et peut-être que l'espéranto sauvera les langues nationales, dont la langue française, qui est en train de s'angliciser très rapidement. Il n'y a qu'à écouter, voir ce qu'on écrit dans les journaux et écouter ce qu'on entend dans les radios et à la télévision. Eh bien, on entend des quantités de mots anglais qui entrent dans la langue. Et on n'y fait même pas attention. On opère sans douleur. On passe de temps. Et l'anglais, le Konglish, l'anglais continental, risque de devenir la langue des Européens. Et ce sera horrible. Nous serons des sous-anglophones. Nous parlerons un pidgin, un créole anglophone, et un créole anglais. Et ce processus est déjà entamé. Il est temps de réagir. Et je crois qu'on va commencer à comprendre, avec l'adhésion des 10 nouveaux États, on va commencer à comprendre le danger.
On peut peut-être rappeler, Sébastien, le titre de l'ouvrage de Georges Kersaudy.
Alors, c'est « Langues sans frontières à la découverte des langues de l'Europe », donc de Georges Kersaudy, et c'est aux éditions Autrement.
Alors, on va parler musique avant de présenter un nouveau pays, la Hongrie, tout à l'heure.
Voilà, et on écoute un morceau justement en hongrois. C'est le groupe République.
Simogasson, ha arcod.
Alors, parmi les pays à l'honneur aujourd'hui dans ce Europe Espéranto, Sébastien, c'est la Hongrie. Vous allez nous dire deux mots sur ce pays?
Alors, on va donner quelques informations générales. Donc, dans le pays... alors, en hongrois, tu peux nous donner le nom du pays en hongrois? C'est Magyar...
Magyarország.
Alors, donc, il y a 10 millions d'habitants, une population assez homogène, 99% d'Hongrois. Une superficie de 93 000 km². Alors, c'est une démocratie. Le président actuel, si je ne me trompe pas, c'est Ferenc Mag. La religion principale, c'est un pays de religion catholique. La capitale, alors que...
Il y a aussi des protestants, oui. Hein, dans ce grand nombre.
La capitale que tout le monde connaît, c'est Budapest. Donc, qui a 2 millions d'habitants, donc c'est-à-dire qui regroupe déjà une bonne partie de la population totale du pays. On peut citer quelques autres villes importantes comme Pécs, Debrecen, Szeged et puis bien d'autres. Alors, le drapeau hongrois, c'est un drapeau rouge, blanc, enfin des lignes rouge, blanc et vert horizontales. La monnaie actuelle, vu que c'est pas encore l'euro, je ne sais pas si ce sera l'euro prochainement, mais c'est le forint actuellement. Alors, citons quelques personnes importantes de la culture hongroise. On va citer comme écrivain Kolcsey Ferenc, ou comme poète, un poète très connu du 19e siècle, Petőfi Sándor, ou du 20e siècle, Miklós, ou Arany János. Voilà, il y a Georges qui est là pour me corriger. Alors, deux mots sur la langue hongroise. C'est pas une langue indo-européenne comme nos langues, c'est une langue finno-ugrienne, c'est-à-dire la même famille que le finnois ou l'estonien. Et qui, contrairement aux apparences, c'est pas une langue si difficile qu'on le croit, vu que justement la prononciation est entièrement régulière. L'accent tonique est régulier, il n'y a pas de genre, la conjugaison est assez simple. C'est vrai. Donc voilà en gros pour la langue. Au niveau de l'Union européenne, 80% de l'entrée de la Hongrie dans l'Union européenne qui est imminente. 80% du pays, en gros, soutient l'idée. Il y a beaucoup de oui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Hongrois ont très peur à cause, entre autres, du changement de prix et puis du non-changement des salaires. Enfin. Et enfin, pour le mouvement espéranto en Hongrie, signalons que c'est l'un des seuls pays ou le seul pays à avoir officialisé l'espéranto, c'est-à-dire qu'on peut le prendre comme langue officielle. Et il y a une université d'espéranto, Eötvös, à Budapest.
Et qu'est-ce qu'on mange en Hongrie?
Le paprikash, on mange le paprikash, et il y a beaucoup de plats hongrois, et on ne peut pas donner toute la liste maintenant, mais le principal, c'est le paprikash.
Alors, on aura peut-être l'occasion d'en goûter prochainement.
Il y a le gouyash.
Ah oui,
gouyash, c'est une soupe qui est très, que tout le monde connaît bien, il en existe beaucoup de variétés d'ailleurs.
Sébastien, on vous retrouve le mois prochain.
Voilà.
Georges Kersaudy, merci d'avoir participé à cette émission.
Peace.
Peace.